Les grandes espérances, deuxième partie, chapitre 18. Quelques semaines se passèrent sans apporter aucun changement. Nous attendions Wemmick et il ne donnait aucun signe de vie. Si je ne l'avais pas connu hors de la Petite-Bretagne et si je n'avais jamais joui du privilège d'être sur un pied d'intimité au château, j'aurais pu douter de lui, mais le connaissant comme je le connaissais, je n'en doutais pas un seul instant. Mes affaires positives prenaient un triste aspect, et plus d'un créancier me pressait pour de l'argent. Je commençais, moi-même, à connaître le besoin d'argent, je veux dire d'argent comptant dans ma poche, et j'atténuais ce besoin en vendant quelques objets de bijouterie dont on se passe facilement. Mais j'avais décidé que ce serait une action lâche de continuer à prendre de l'argent de mon bienfaiteur dans l'état d'incertitude de pensée et de projet où j'étais. En conséquence, je lui renvoyais par Herbert le portefeuille intact pour qu'il le gardât, et je sentis une sorte de satisfaction, était-elle réelle ou fausse, je le sais à peine, de n'avoir pas profité de sa générosité depuis qu'il s'était révélé à moi. Comme le temps s'écoulait, l'idée qu'Estelle était mariée s'empara de moi, craignant de l'avoir confirmée, bien que ce ne fût rien moins qu'une conviction. J'évitais de lire les journaux et je priais Herbert, auquel j'avais confié cette circonstance lors de notre dernière entrevue, de ne jamais m'en parler. Pourquoi gardais-je avec soin ce misérable et dernier lambeau de la robe de l'espérance, déchiré et emporté par le vent? Pourquoi, vous qui lisez ceci, avez-vous commis la même inconséquence l'an dernier, le mois dernier, la semaine dernière? C'était une vie malheureuse que celle que je menais, et son anxiété dominante dépassait toutes les autres anxiétés, comme une haute montagne s'élève au-dessus d'une chaîne de montagnes, et ne disparaissait jamais de ma vue. Cependant, aucune nouvelle cause de terreur ne s'élevait que je ne sautasse à bas de mon lit avec la nouvelle crainte qu'il était découvert et que j'écoutasse avec anxiété les pas d'Herbert, rentrant le soir de peur qu'il fût plus léger que de coutume et chargé de mauvaises nouvelles. Malgré tout cela, ou plutôt à cause de tout cela, les choses allaient leur train. Condamné à l'inaction, à une inquiétude et à un doute continuel, je ramais çà et là dans mon bateau et j'attendais du mieux que je le pouvais. Il y avait des marées où, après avoir descendu la rivière, je ne pouvais remonter son remous furieux à l'endroit des arches et de l'éperon du vieux pont de Londres. Alors, je laissais mon bateau à un wharf près de la douane pour qu'on l'amenât ensuite aux escaliers du temple. Je le faisais assez volontiers car cela servait à me faire connaître, ainsi que mon bateau, des gens de ce côté de l'eau. Cette circonstance insignifiante amena à deux rencontres dont je vais dire quelques mots. Une après-midi, vers la fin du mois de février, j'abordais au wharf à la nuit tombante. J'étais descendu jusqu'à Greenwich avec la marée, et je remontais avec la marée. La journée avait été superbe, mais le brouillard s'était élevé après le coucher du soleil, et j'avais eu beaucoup de peine à me frayer un chemin parmi les navires. En descendant, comme en remontant, j'avais vu le signal à la fenêtre. Tout allait bien. Comme la soirée était âpre et que j'avais très froid, je pensais à me réconforter en dînant tout de suite. Et comme j'avais des heures de tristesse et de solitude devant moi, avant de rentrer au temple, je me promis, après le dîner, d'aller au théâtre. Le théâtre, où M. Wopsle avait remporté son incontestable triomphe, était de ce côté de l'eau. Il n'existe plus nulle part aujourd'hui, et c'est à ce théâtre que je résolus d'aller. Je savais que M. Wopsle n'avait pas réussi à faire revivre le drame, mais qu'il avait au contraire aidé à sa décadence. On l'avait vu, annoncé modestement sur les affiches, comme un nègre fidèle à côté d'une petite fille de noble naissance et d'un singe. Herbert l'avait vu remplir le rôle d'un tartare, rapace et facétieux, avec une tête rouge comme une brique et un chapeau impossible tout couvert de sonnettes. Je dînais à l'endroit qu'Herbert et moi nous appelions la gargote géographique, où il y avait une map-monde sur les rebords des pots à bière et sur chaque demi-mètre de la nappe, et des cartes tracées avec le jus sur chaque couteau. Aujourd'hui, c'est à peine s'il y a une seule gargote dans le domaine du Lord Mayor qui ne soit pas géographique, et je passais le temps à faire des boulettes de mie de pain, à regarder les becs de gaz et à cuire dans la chaude atmosphère des dîners. Bientôt, je me levais pour me rendre au théâtre. Là, je vis un vertueux maître d'équipage au service de Sa Majesté, excellent homme, bien que j'eusse pu lui désirer un pantalon moins serré dans certains endroits et plus serré dans d'autres, qui enfonçait tous les petits chapeaux des hommes sur leurs yeux, quoiqu'il fût très généreux et brave, et qu'il eût désiré que personne ne payât d'impôts et qu'il fût très patriote. Ce maître d'équipage avait un sac d'argent dans sa poche qui faisait l'effet d'un pudding dans son linge. Avec cet avoir, il épousait une jeune personne versée dans les fournitures de Littry au milieu de grandes réjouissances. Toute la population de Portsmouth, au nombre de 9 au dernier recensement, se tournait vers la plage pour se frotter les mains, échanger des poignées de main avec les autres et chanter à tue-tête « Remplissez nos verres, remplissez nos verres !» Un certain balayeur de navire, au teint foncé, qui ne voulait ni boire ni rien faire de ce qu'on lui proposait, et dont le cœur, disait ouvertement le maître d'équipage, devait être aussi noir que la figure, proposa à 2 autres de ses camarades de mettre dans l'embarras tous ceux qui étaient là, ce qui fut si bien exécuté, la famille du balayeur ayant une influence politique considérable, qu'il fallut une demi-soirée pour arranger les choses, et alors tout fut mené par l'intermédiaire d'un petit épicier avec un chapeau blanc, des guêtres noires, un nez rouge, qui entra dans une horloge avec un grill à la main pour écouter, sortir et frapper par derrière avec son grill ceux qu'il ne pouvait pas convaincre de ce qu'il avait entendu. Ceci amena M. Wopsle, dont on n'avait pas encore entendu parler. Il entra, portant une étoile et une jarretière, comme grand plénipotentiaire envoyé par l'amirauté, pour dire que les balayeurs devaient aller en prison sur le champ et qu'il apportait le pavillon anglais au maître d'équipage, comme un faible témoignage des services publics qu'il avait rendus. Le maître d'équipage, ému pour la première fois, essuya respectueusement son œil avec le pavillon, puis, éclatant de joie et s'adressant à M. Wopsle, « Avec la permission de votre honneur, dit-il, je sollicite l'autorisation de lui offrir la main. » M. Wopsle le lui permit avec une dignité gracieuse et fut immédiatement conduit dans un coin poussiéreux pendant que tout le monde dansait une gigue. C'est de ce coin, et en promenant sur le public un œil mécontent, qu'il m'aperçut. La seconde pièce était la dernière nouvelle grande pantomime de Noël, dans la première scène de laquelle je fus peiné de découvrir M. Wopsle. Il entra en scène en grand bas de laine rouge, avec un visage phosphorescent et une masse de franges écarlates en guise de cheveux. Puis, le génie de l'amour ayant besoin d'un aide, à cause de la brutalité paternelle d'un fermier ignorant qui s'opposait au choix de sa fille, évoqua un enchanteur sentencieux et, arrivant des Antipodes, quelque peu secoué, après un voyage apparemment rude. M. Wopsle parut dans ce nouveau rôle avec un chapeau pointu et un ouvrage de nécromancie en un volume sous le bras. Le but du voyage de cet enchanteur étant principalement d'écouter ce qu'on lui disait, ce qu'on lui chantait, ce qu'on lui criait, de voir ce qu'on lui dansait et lui montrait, avec des feux de diverses couleurs, il avait pas mal de temps à lui, et je remarquai avec une grande surprise qu'il passait ce temps à regarder de mon côté, comme s'il se perdait en étonnement. Il y avait quelque chose de si remarquable dans l'état croissant de l'œil de M. Wopsle, et tant de choses semblaient tourbillonner dans son esprit et y devenir confuses, que je n'y comprenais plus rien. J'y pensais encore en sortant du théâtre une heure après, et en le trouvant qui m'attendait près de la porte. « Comment vous portez-vous » dis-je en lui donnant une poignée de main pendant que nous descendions dans la rue. « Je me suis aperçu que vous me voyiez. »«
Si je vous voyais, monsieur Pipe, » répondit-il.
« Mais oui, je vous voyais.
Mais qui donc était là aussi ?»«
Qui ?»«
C'est étrange, »
dit monsieur Wopsle, retombant dans son regard perdu.
« Et cependant, je jurerais que c'est lui. »
Prenant l'alarme, je suppliai à monsieur Wopsle de s'expliquer.
« Je ne sais pas si je l'aurais remarqué d'abord, si vous n'eussiez pas été là, » dit monsieur Wopsle, continuant du même ton vague.
« Oh, ce n'est pas certain.
Pourtant, je le crois. »
Involontairement, je regardais autour de moi, comme j'avais l'habitude de le faire, en rentrant au logis, car ces paroles mystérieuses me donnaient le frisson.
« Oh, on ne peut plus le voir, » dit monsieur Wopsle.
« Il est sorti avant moi.
Je l'ai vu partir. »
Avec les raisons que j'avais d'être méfiant, j'allais jusqu'à soupçonner ce pauvre acteur. J'entrevoyais un dessein de m'arracher quelque aveu par surprise. Je le regardais donc en marchant, mais je ne disais rien.
« Je me figurais follement qu'il devait être avec vous, monsieur Pipe, jusqu'à ce que je m'aperçusse que vous ne saviez pas qu'il était là, assis derrière vous comme un fantôme. »
Mon premier frisson me reprit, mais j'étais résolu à ne pas parler encore. Car j'étais tout à fait convaincu, d'après les paroles de Wopsle, qu'il devait avoir été choisi pour m'amener à parler de ce qui concernait Provis. J'étais, bien entendu, parfaitement assuré que Provis n'était pas là.
« Je vois que je vous étonne, monsieur Pip.
Je le vois bien. Mais c'est bien étrange. Vous aurez peine à croire ce que je vais vous dire. Je pourrais à peine le croire moi-même si vous me le disiez. »
« Vraiment ? » dis-je.
« Non, vraiment, monsieur Pipe. Vous vous souvenez d'un certain jour de Noël, alors que vous n'étiez encore qu'un enfant. Je dînais chez Gargery, et des soldats vinrent frapper à la porte pour faire réparer une paire de menottes.
Je m'en souviens très bien.
Et vous vous souvenez qu'ils poursuivaient deux forçats, que nous y allâmes avec eux, que Gargery vous portait sur son dos, et que je me mis à la tête, et que vous vous teniez aussi près de moi que possible.
« Je me souviens très bien de tout cela.
Mieux qu'il ne le croit, pensais-je, excepté ce dernier détail. Et vous vous souvenez que nous les trouvâmes tous les deux dans un fossé, et qu'ils se battaient, et que l'un avait été rudement frappé et blessé au visage par l'autre.
Je les vois encore.
Et que les soldats allumèrent des torches et mirent les deux forçats au milieu d'eux, et que nous avons été les voir emmenés au-delà des marais. Que la lumière des torches éclairait leur visage. J'insiste sur ce détail, que la lumière des torches éclairait leur visage, parce que tout était nuit noire autour de nous.
Oui, dis-je, je me souviens de tout cela.
Eh bien, monsieur Pipe, un de ces deux prisonniers était derrière vous ce soir. Je le voyais par-dessus votre épaule.
Attention, pensais-je.
« Lequel des deux supposiez-vous que c'était ?» lui demandai-je.
« Celui qui a été maltraité, » répondit-il aussitôt.
« Et je jurerais que je l'ai vu. Plus j'y pense, plus je suis certain que c'est lui. »«
C'est très curieux, » dis-je en prenant le meilleur air que je pus pour lui faire croire que cela ne me faisait rien.
« C'est très curieux, en vérité. » Je ne puis exagérer l'inquiétude extraordinaire dans laquelle cette conversation me jeta, ni la terreur étrange que je ressentais en songeant que Compeyson avait été derrière moi comme un fantôme. Car s'il était sorti un moment de ma pensée depuis que Provis était en sûreté, c'était dans le moment même qu'il avait été le plus près de moi. Et penser que je m'en doutais si peu, que j'étais si peu sur mes gardes après toutes les précautions que j'avais prises, c'était comme si, après avoir fermé une enfilade de 100 portes pour l'éloigner, je l'eusse retrouvé à mon bras. Je ne pouvais pas douter non plus qu'il n'eût pas été là, et que si légère que fût une apparence de danger autour de nous, le danger était toujours proche et menaçant. Je demandai à M. Wopsle à quel moment l'homme était entré.
« Je ne puis vous le dire. »
Je vous ai vu
et par-dessus votre épaule, j'ai vu l'homme. Ce n'est qu'après l'avoir vu pendant quelque temps que j'ai commencé à le reconnaître. Mais je l'ai tout de suite, vaguement, associé à vous, et j'ai su qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, quelque rapport avec vous, au temps où vous habitiez notre village. Comment était-il vêtu? Convenablement, mais sans rien de particulier, en noir, à ce que je pense. Son visage était-il défiguré? Non, je ne crois pas. Je ne le croyais pas non plus, bien que dans mon état de préoccupation, je n'eusse pas fait beaucoup attention aux gens placés derrière moi. Je pensais cependant qu'il était probable qu'un visage défiguré aurait attiré mon attention. Quand M. Wopsle m'eût fait part de tout ce qu'il pouvait se rappeler ou de tout ce que je pouvais lui arracher, et quand je lui eus offert un léger rafraîchissement pour le remettre de ses fatigues de la soirée, nous nous séparâmes. Il était entre minuit et 1 heure quand j'arrivai au temple et les portes étaient fermées. Il n'y avait personne près de moi, ni sur ma route, ni quand j'arrivais à la maison. Herbert était rentré et nous tînmes un conseil très sérieux auprès du feu. Mais il n'y avait rien à faire, si ce n'est de communiquer à Wemmick ce que j'avais découvert ce soir-là et de lui rappeler que nous attendions sa décision. Comme je pensais que je pourrais le compromettre si j'allais trop souvent à son château, je lui fis cette communication par lettre. Je l'écrivis avant de me mettre au lit et je sortis pour la mettre à la poste. Personne encore n'était derrière moi. Herbert et moi nous convînmes que nous n'avions rien à faire que d'être très prudents. Et nous fûmes réellement très prudents, plus que prudents même, si c'est possible. Et pour ma part, je n'approchais jamais du bassin aux écus, excepté quand j'y passais en bateau, et alors je ne regardais le moulin au bord de l'eau que comme j'aurais regardé toute autre chose.